La narration. Chers amis, j'aimerais vous raconter une histoire. Elle se passe il y a 3 ans. Il est 2 heures du matin. Avec un collègue de bureau, nous quittons le bar où nous venons de festoyer comme des princes afin de rentrer, non pas chez nous, mais dans le bar d'à côté. Vigoureusement arrimés au comptoir, nous commandons la 5e dernière bière de la soirée. Mon collègue fait une blague à la serveuse. J'ai oublié de vous le dire, il s'appelle Camille. Depuis, il est devenu mon meilleur ami. La serveuse, elle, s'appelle Dominique. Aujourd'hui, elle est devenue sa femme. L'utilisation d'une narration en accroche de notre intervention peut être déclinée selon tous les types de récits possibles, littéraires, historiques, mythologiques, mais également, comme c'est le cas ici, anecdotiques. Avec la montée en puissance du storytelling au sein de la communication contemporaine, il est devenu très en vogue d'introduire son discours par une anecdote, le plus souvent personnelle. Non sans raison d'ailleurs, il s'agit d'un procédé redoutablement efficace. L'anecdote permet de faire résonner en chacun de nos auditeurs l'enfant qui subsiste encore et aime à s'entendre conter des histoires. Si elle est suffisamment personnelle, elle sera de surcroît reçue avec l'importance que l'on confère à un secret partagé. Le simple fait de commencer notre intervention par les mots « j'aimerais vous raconter une histoire » participe ainsi d'ores et déjà à capter l'attention des auditeurs. Attention néanmoins, le procédé a ceci de périlleux qu'il est très, peut-être trop, fréquemment utilisé. Déployé sans goût ni subtilité, il risque d'avoir la saveur insipide d'un cliché éculé. Ce n'est pas exactement l'effet recherché. La description. Deux personnes sur un canapé en face de la cheminée. Deux personnes blotties l'une contre l'autre, discutant pendant des heures. L'une grignote du chocolat, l'autre porte 2 paires de chaussettes parce qu'elle a toujours froid. Voilà à quoi ressemble pour moi le bonheur simple d'une vie à deux. Il ressemble à Camille et Dominique sur un canapé en face de la cheminée dans le petit chalet que nous avons loué l'hiver dernier. La description est un autre procédé importé directement de l'art du récit. Elle diffère de la narration en ce qu'aucune action n'y prend place. Il s'agit simplement de dépeindre une scène de la manière la plus colorée et vivante qui soit afin d'en imprégner l'esprit de nos auditeurs. Fascinés par le tableau que nous leur décrivons, impatients de savoir pourquoi nous leur en parlons, ils nous consacrent toute leur attention. C'est précisément ce que nous cherchions. Prenons garde, cela dit. Contrairement à la narration, qui peut être déclinée sous bien des formes, des plus simples aux plus sophistiquées, l'accroche par description comporte une dimension intrinsèquement littéraire. En cela, elle est surtout adaptée aux contextes solennels ou monumentaux, dans lesquels nous pouvons nous permettre de faire un peu d'emphase. Convenons qu'une telle accroche risquerait de paraître décalée lors d'une réunion de travail en petit comité. Par ailleurs, elle nécessite une plume affûtée, sans quoi elle risque de paraître moins captivante que grotesque. La contre-intuition. Je déteste l'amour. Je le déteste. L'amour fait faire des choses stupides. Par amour, des milliers d'auteurs talentueux ont écrit des poèmes dégoulinants ou des morceaux lénifiants. Par amour, des milliers d'hommes et de femmes raisonnables ont dit des choses aussi absurdes que « pour toujours » ou « à jamais ». Par amour, John Lennon a quitté les Beatles. Mais ce soir, Camille, Dominique, laissez-moi vous faire une confession. Lorsque je vous vois ainsi, irradiant de bonheur, eh bien oui, moi aussi, j'ai envie d'aimer l'amour. L'accroche par contre-intuition consiste à introduire notre discours de manière paradoxale, soit en disant l'inverse de ce que nous devrions vouloir démontrer, soit en donnant à penser que nous sommes en train de nous tromper de sujet. L'objectif est, au fond, toujours le même, déstabiliser nos auditeurs afin de susciter en eux surprise, curiosité et attention. Il nous faudra prendre garde, néanmoins, à revenir rapidement au cœur de notre intervention, sans quoi nous pourrions nous perdre en chemin. Cette réserve mise à part, le procédé comporte assez peu de risques et peut être utilisé dans un panel large de situations, à condition bien sûr d'avoir l'audace de s'en servir. La provocation. Vous le savez peut-être, 50% des mariages se terminent par un divorce. Quant à l'autre moitié, ce n'est guère mieux puisqu'il se conclut, au fond, par un décès. Camille, Dominique, je vous le dis tout de go, quel courage ! Personne ne peut vous reprocher de ne pas avoir le goût du risque, voire le sens de l'absurde. Et, ma foi, c'est vous qui avez raison. Quand on vous voit ce soir, lumineux comme deux soleils, une seule certitude s'impose. Oui, l'amour vaut la peine d'être vécu. Délicat procédé que la provocation. Elle consiste à bousculer notre auditoire en lui disant l'exact inverse de ce qu'il voudrait entendre. Ce faisant, nous captons son attention, assurément, mais nous risquons aussi de nous aliéner sa sympathie irrévocablement. Il s'agit donc d'un outil à manier avec la plus grande précaution, sur des temps très courts et surtout avec beaucoup de bienveillance. Mais si notre accroche est guidée par l'espièglerie plutôt que l'animosité et la finesse plutôt que la brutalité, elle peut produire sur nos auditeurs un formidable effet. L'appel à l'imaginaire. J'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. J'aimerais que vous regardiez Camille et Dominique. Regardez-les attentivement. Et maintenant, prenez un instant pour les imaginer dans 40 ans. Allez-y, allez-y, faites-le. Ils sont assis sur un canapé, leurs visages se sont ridés, leurs mains se sont fripées. Depuis la pièce d'à côté, on peut distinguer la voix de leur enfant qui raconte une histoire à son enfant. Tout a changé autour d'eux. Mais une chose subsiste, inaltérable. Cette chose, c'est le regard qu'ils ont l'un pour l'autre, tendre, intense, profond. Ce regard, mes chers amis, est à l'épreuve du temps. L'appel à l'imaginaire est un procédé radicalement différent des précédents en ce qu'il implique une participation active de nos auditeurs. Alors qu'ils n'avaient jusqu'à présent rien d'autre à faire que d'écouter, nous exigeons désormais un effort de leur part, celui de se représenter la scène que nous leur suggérons. Ne nous y trompons pas, le procédé est formidablement efficace. Il incite nos auditeurs à bâtir avec nous, en leur esprit, une part de notre édifice argumentatif. Nous les rendons co-responsables d'un pan entier de notre discours et augmentons d'autant les chances qu'ils acceptent par la suite la conclusion vers laquelle nous les guidons. Restons prudents toutefois, cela n'est pas si simple à mettre en œuvre. Solliciter la participation, aussi minime soit-elle, d'un public qui s'attendait à rester passif, ne va jamais de soi. Nous devons donc être prêts à lancer notre appel avec une certaine insistance, sans quoi nos auditeurs risquent tout bonnement de faire comme si nous ne leur avions rien demandé. Mais il faudra aussi veiller à ne pas mettre trop de pression sur eux, sans quoi ils risqueraient d'entrer en résistance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous déconseillons d'exiger de nos auditeurs qu'ils ferment les yeux, une variante hélas très courante. Cela revient à augmenter encore l'investissement demandé sans que nous en retirions le moindre bénéfice tangible. Aux dernières nouvelles, tout le monde peut encore faire fonctionner son imaginaire, les yeux ouverts. La question directe. Chers amis, j'aimerais vous poser une question et j'aimerais que vous répondiez honnêtement. Quels sont ceux parmi vous qui, il y a 4 ans, aurait parié sur le mariage de Camille et Dominique. Allez-y, allez-y, levez la main. Personne ? Mais est-ce vraiment étonnant ? N'était-il pas constamment en train de se chamailler pour un oui ou pour un non ? Et pourtant, regardez-les aujourd'hui, c'est d'un oui et d'un oui qu'ils ont décidé de s'unir pour la vie. À la différence de la question rhétorique que nous adressons à nous-mêmes, la question directe est énoncée à destination du public dont nous attendons en retour une réponse. Elle vise le même objectif que l'appel à l'imaginaire, impliquer les auditeurs dans notre prise de parole. Les ériger non plus seulement en récepteurs, mais bien en acteurs de notre argumentation. Leur participation est même d'une intensité supérieure ici, puisque nous demandons de prendre publiquement position. Alors certes, le procédé peut paraître éculé. Il a été usé à l'excès par une génération entière de conférencières et conférenciers qui y ont trouvé un moyen commode de générer de la complicité. Il demeure toutefois rudement efficace à condition de bien respecter deux précautions. La première, comme pour l'appel à l'imaginaire, nous devons être prêts à nous montrer insistants. Rien ne serait pire que de poser une question, de n'obtenir aucune réaction et de devoir poursuivre piteusement notre intervention. S'il le faut, nous irons donc chercher les réponses à la force de notre volonté. Pour cette raison, nous devrions d'ailleurs toujours solliciter la manifestation la moins engageante possible pour nos auditeurs. Un bras levé, des applaudissements, un acquiescement. En revanche, évitons à tout prix la question ouverte. Elle risquerait de mener à un vilain moment de flottement, personne ne désirant s'exprimer à haute voix. Voire, pire, à la confiscation de la parole par un auditeur bavard. Seconde précaution, quoi que réponde notre auditoire, nous devons absolument avoir préparé une réplique qui nous permette de retrouver le fil de notre intervention. Pour reprendre notre exemple, imaginons que, à notre stupéfaction, une grande partie des convives lève la main pour répondre « oui » à la question que nous venons de poser. Nous aurions enchaîné ainsi « mais bien sûr, c'était une évidence qu'ils étaient faits l'un pour l'autre ». La séquence perd son panache, mais l'honneur est sauf. Le trait d'humour. Quand un couple marié depuis 10 jours a l'air heureux, on sait pourquoi. Quand un couple marié depuis 10 ans a l'air heureux, on se demande pourquoi. Eh bien, Camille, Dominique, je vais vous dire, je crois que personne parmi nous ne sera étonné de vous voir aussi heureux dans 10 ans que ce soir. Terminons avec l'accroche qui pourrait paraître la plus évidente, le trait d'humour. Alors, certes, lorsqu'il est couronné de succès, nous ne récoltons pas seulement les rires de nos auditeurs, nous gagnons aussi leur bienveillance, leur attention et même leur sympathie. Mais dans le cas contraire, si d'aventure nous connaissons ce que les humoristes redoutent, un fiasco, nous aurons commencé notre intervention de la manière la moins flatteuse qui soit. Pour cette raison, mieux vaut être prudent avec l'utilisation de l'humour en guise d'accroche. Il pourrait être plus sage de laisser passer quelques phrases avant de tenter de décocher un trait. Nous pourrions ainsi préparer le terrain et mettre de notre côté toutes les chances d'atteindre notre cible. Et quand bien même nous échouerions, ce ne serait alors pas un drame. Une fois la complicité établie avec nos auditeurs, il existe 1000 manières de retourner cette situation à notre avantage, la plus simple étant l'autodérision. En revanche, en tout début d'intervention, nous risquons d'avoir à encaisser le coup, et il est brutal. 3. Composer une accroche adaptée à la situation. Il existe donc un grand nombre d'exordes ex abrupto différents qui peuvent nous permettre de capter l'attention des auditeurs dès nos premiers mots. La question qui se pose dès lors est celle du choix. Parmi ces nombreuses options, sur laquelle allons-nous jeter notre dévolu? La réponse dépend en grande partie du contexte. Les accroches, par question rhétorique ou par suspension simple, sont souvent adaptées aux situations peu formelles. Prise de parole en réunion, intervention face à un petit nombre de spectateurs, mais aussi billets de blog ou vidéos postées sur les réseaux sociaux. Les accroches par appel à l'imaginaire, questions directes ou suspensions filées, en revanche, s'accordent plutôt avec des contextes magistraux, conférences, discours, tables rondes. Les accroches par citation, narration ou métaphorisation sont, quant à elles, très flexibles. Travaillées de la bonne manière, elles peuvent convenir à un vaste éventail de situations différentes. Les approches par description, contre-intuition et provocation, enfin, sont à manipuler avec grande prudence. Elles exigent avant tout une oratrice ou un orateur capable de délicatesse. Dans les faits, nous parviendrons presque toujours à trouver un ex abrupto qui soit adapté à la fois au contexte, à notre propos et à nos goûts. Il y a donc peu de raisons de recourir à l'ennuyeuse accroche descriptive, à l'exception de cas spécifiques, notamment les situations très informelles ou, au contraire, protocolaires. Encore nous faut-il être capable de déployer ce type d'approche correctement. Bien souvent, en particulier lorsque nous nous exprimons à l'oral, il est délicat de commencer notre intervention de manière totalement abrupte. Nous risquerions de brusquer notre auditoire et de susciter de la gêne. Cela ne signifie pas pour autant que, dans une telle situation, nous soyons contraints de renoncer à une accroche ex abrupto. Nous allons simplement la faire précéder d'une phrase d'adresse préalable, extrêmement brève, qui n'aura d'autre but que de préparer nos auditeurs à accueillir notre parole. Étude de cas. Je suis en réunion professionnelle, entouré de 5 collègues et de mon directeur. Celui-ci me passe la parole. « Cher ami, pouvez-vous nous faire le point sur les formations en éloquence ?» Décidant d'appliquer à la lettre mes propres techniques, je laisse passer un silence pesant, puis enchaîne abruptement. 2/3. 2/3, c'est le taux d'appel d'offres que nous perdons chaque mois. Il faut absolument que nous fassions mieux. » Autour de la table, mes collègues me regardent éberlués. Manifestement, mon effet tombe à plat. Je pensais nimber mon intervention de mystère. Il semblerait que j'ai plutôt suscité du désarroi. Je réalise alors que, pour m'éviter une telle déconvenue, il aurait suffi d'une courte adresse préalable. « Bien sûr, monsieur le directeur, c'est en effet un sujet important. »
Silence.
2/3. 2/3, c'est le taux d'appel d'offres que nous perdons chaque mois. Décryptage. L'adresse préalable peut prendre bien des formes selon les contextes. De la moins formelle, « Ah, je suis bien content que tu me poses la question. » À la plus protocolaire. « Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. » Elle constitue au fond un concentré de politesse. En une phrase, elle permet de remercier les personnes qui doivent l'être et de prévenir toutes les autres que nous nous apprêtons à parler. Nous n'avons plus ensuite qu'à laisser passer un silence court, mais crucial, avant d'enchaîner sur notre ex abrupto. L'effet produit sera exactement celui que nous recherchons, dynamique, sans être brutal. Bien sélectionné, bien forgé, notre accroche est prête. C'est ici que commence notre entreprise de conviction.